avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je reçois en direct sur RFI Dia Risso, 21 ans, étudiante et auteure. Bonjour Dia Risso.
Bonjour.
Merci d'être chez 7 milliards de voisins. C'est le début des vacances scolaires en France, donc fin des cours pour vous en classe préparatoire au concours des grandes écoles, ce qui vous laisse un petit peu de répit.
Effectivement.
Comment ça va?
Très bien. Oui, ça va.
Vous êtes en pleine révision?
Ouais, là en ce moment, c'est plutôt intense.
Alors vous êtes probablement l'étudiante sénégalaise la plus connue. Miss Science en 2017, désignée deux fois meilleure élève du Sénégal. Vous étiez devenue la vitrine du système éducatif sénégalais, inscrite à l'époque en classe préparatoire à Paris, au prestigieux lycée Louis le Grand. Vous disparaissez en janvier 2021. Enquête, recherche de la police, vous inquiétez vos compatriotes jusqu'au président Macky Sall. Réapparition 17 jours plus tard, sans explication. Certains vous soupçonnent d'organiser, d'orchestrer votre disparition volontaire pour mieux vendre votre deuxième roman intitulé « Je pars ». Votre personnalité intrigue ou déçoit, mais en tout cas ne laisse pas indifférent. Et pour ceux qui nous reprochent d'inviter une gamine de 21 ans, douée comme il en existe plein au Sénégal, je cite certains auditeurs, je répondrai qu'elles sont toutes les bienvenues à cette antenne, que c'est une réjouissance pour l'avenir du continent. Dia Risso, que vous soyez finalement le témoin d'une nouvelle génération ou seulement porte-parole de vous-même, en tout cas, nous, on a envie de vous entendre, et les voisins et les voisines aussi, je pense, pas seulement sur votre courte existence, vous êtes née en 2000, mais aussi sur le monde qui vous entoure, sur la place des femmes, car votre écriture témoigne d'une finesse d'analyse, d'une personnalité peu banale aussi pour votre âge. Pas vraiment perceptible, évidemment, sur votre compte Instagram, nombriliste, aux 63 000 abonnés. En fin d'émission chez 7 milliards de voisins, une rubrique régulière, nos portraits de l'Afrique qui gagne. Et aujourd'hui, ce sera Mariette Moncho, qui est militante béninoise. Et c'est une rencontre qui est signée par Raphaël Constant. Quelques messages postés sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Vous pouvez aussi poser des questions à Dia Risso, libre à elle d'y répondre ou pas. Un message de Candé qui est enseignant au Sénégal, avec toute l'estime que nous avons pour elle. Le Sénégal est plein de Dia Risso, sans bruit ni trompette. Je suis professeur d'école et j'en connais mille. Mamadou, Cotonou, au Bénin, quelle indépendance peut revendiquer Dia Risso alors qu'elle est un pur produit de la société sénégalaise? On est tous le produit d'une société par définition, hein. On n'a pas grandi dans la jungle, non, me semble-t-il, Diary?
Effectivement, il me semble que nous sommes tous le produit d'une société, d'une culture. Nous sommes le résultat de quelque chose. Et être le résultat de quelque chose ne nous rend pas moins légitime à revendiquer ou à se rebeller ou à revendiquer autre chose. Et pour la première question qui faisait la remarque sur les milliards de Dia Risso qui
peut-être
qui
pas pourrait... les milliards, mais dans un pays de 17 millions en tout cas.
Mais dans le monde en général, il y a beaucoup de jeunes filles qui en tout cas font de leur mieux pour s'extraire de leurs conditions, pour être mieux, en tout cas la meilleure version d'elles-mêmes. Mais il se trouve aujourd'hui que j'ai posé un acte et j'ai trouvé un tout petit peu le courage de dire bruyamment ce que je pensais tout bas avant. Et forcément, ça déplaît à certains, ça peut plaire à d'autres, mais en tout cas, globalement, c'est perçu différemment selon les histoires, selon le contexte aussi, le contexte social, et je le comprends tout à fait.
Mariama, qui est à Dakar, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une deuxième chance à Dia Risso? Diary, tu as le droit de faire une erreur, ça n'enlève en rien toutes les potentialités qui sont en toi et toute l'admiration que j'ai pour toi. Reste libre et continue d'apprendre. Abou Bakri, Tonton Bakunda, toujours chez vous. Bravo Diary. Ibrahim, également dans la même ville. Diary Sow n'est pas une bonne inspiration pour la jeunesse sénégalaise. C'est d'ailleurs à cause de son comportement que des parents ont décliné les bourses d'études à l'étranger pour leurs filles. Quand tu es la meilleure élève du Sénégal, les gens attendent de toi une réussite de sur tous les plans. Et comme elle n'a pas justifié sa fugue, ça laisse un doute dans l'esprit des Sénégalais.
Je trouve cette vision un peu réductrice, parce que ça supposerait qu'au-delà d'être une jeune fille comme les autres, j'aurais des obligations particulières envers ma société. Or, ça ne devrait pas se passer comme ça. Je suis avant tout une jeune fille. J'ai ma propre vie, mes propres aspirations. Il s'agit d'abord, avant tout, de ma vie, de mes choix, de ma liberté. Et je l'ai prise, donc je n'ai pas à rendre des comptes ou à considérer qu'être élue pendant 2 ans meilleure élève du Sénégal me donnerait des obligations particulières envers mon pays. Il se trouve que j'ai toujours fait de mon mieux.
Ça vous a donné des privilèges, en tout cas, d'étudier.
Je ne dirais pas que ça a été désagréable. Ça m'a permis de me hisser au niveau où je suis en ce moment. Et je me suis battue pour ça. Mon entourage s'est battu pour ça. Mes parents, mes encadreurs, tout le monde. C'était pas gratuit, quoi. Je suis pas venue ramasser le truc qui traînait quelque part. Je me suis battue, je me suis toujours battue.
Et vous n'êtes pas rendue, d'ailleurs. Les concours, c'est dans quelques mois, les concours aux grandes écoles d'ingénieurs.
Exactement. Donc voilà.
Alors, les voisins, les voisines, bien sûr, vous pouvez nous poster vos messages, nous appeler au 33 7 64 45. 51, 41, on en discute avec vous, Diary Sow, une jeune fille, comme les autres ou pas tout à fait.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Diary Sow, vous êtes notre invitée en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI. À propos de l'opinion, vous faites dire à votre héroïne, Koura, dans votre dernier roman « Je pars », une étudiante qui disparaît, elle aussi, « Mon instinct m'a pourtant averti de ne pas suivre l'opinion du grand nombre, qu'étant vacillante autant que versatile, celle-ci risquait de me contraindre à une vie patchwork, à désirer trop fort un chemin lisse. »
Oui, effectivement, Koura, elle s'est dit ça à un moment donné. Quand elle réfléchissait profondément sur sa vie, sur ce qu'elle voulait, sur ses désirs et sur la façon dont elle se brimait elle-même pour correspondre à ce que la société attendait d'elle, aux attentes, à toutes ces revendications sur son corps, sur sa vie, sur ses choix. Et à un moment donné, elle s'est dit « assez, il faut vraiment que je me ressaisisse, que je commence à vivre pour moi, que je commence aussi à m'écouter ». Et c'est exactement ce qu'elle a fait.
Et vous, comment vous avez vécu la versatilité de l'opinion à votre égard ?
Globalement, j'ai été incomprise. Même par les personnes qui pensent m'avoir comprise, je me suis toujours sentie un peu incomprise et je pense que c'est quelque chose de commun. Une personne qui n'a pas vécu les mêmes choses que toi, même si les expériences peuvent être semblables, il y a toujours un contexte différent. On vit toujours différemment les choses selon notre sensibilité, etc. Donc, forcément, on se sent toujours un peu... décalé par rapport à ce que les gens pensent. Et ce n'est pas toujours agréable, mais quand il y a de l'empathie, ça rend ça beaucoup plus facile à vivre.
En même temps, vous ne cherchez pas à être en retrait des réseaux sociaux. Vous êtes née avec le numérique, avec ces réseaux sociaux, et vous êtes dessus comme tout le monde, finalement. Comment vous résistez à leur emprise ?
Eh bien, sur les réseaux, ce sont parfois des commentaires assez durs, j'avoue, parce que ce sont des gens qui sont derrière le clavier. Donc, il y a moins d'interactions humaines et ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en train de s'adresser à une personne réelle, qui a de vrais sentiments, qui a de vrais besoins, etc. Donc, ouais, forcément, c'est un peu plus dur, mais il se trouve que non, je vais pas me restreindre ou m'empêcher d'utiliser les réseaux sociaux juste parce qu'il y a des gens mécontents. Je pense que oui, c'est essentiel de pouvoir définir sa propre image et de parler pour soi, surtout à une époque où tout le monde peut se sentir autorisé à parler sur vous, à donner des opinions personnelles sur votre façon de vivre, etc. Donc tout ça fait que ils ont un certain pouvoir sur vous et c'est à vous de vous rebeller un tout petit peu, de refuser ces étiquettes qu'on vous pose par la force ou par paresse ou par incompréhension.
Et en même temps, vous l'avez admis tout à l'heure, Diarisso, vous êtes forcément le produit d'une société, le produit d'une culture comme nous tous. Disparaître, fuguer, c'est adopter une attitude occidentale, vous a-t-on reproché, sous-entendu une attitude individualiste. C'est pourtant au Japon que cette pratique est un véritable phénomène de société, vous devez le savoir, hein. Les disparitions volontaires d'adultes témoignent d'une anxiété au Japon de perdre la face, de perdre son honneur. Pas vraiment l'idéal occidental, finalement.
Eh bien, moi, je définirais cela comme un problème. Bon, pas forcément comme un problème, mais comme un phénomène humain. C'est tout d'abord humain et il n'y a pas de société ou de culture à qui appartiendraient les disparitions. Et je pense que c'est un désir commun à toute personne à un moment donné de sa vie de vouloir s'évader, de vouloir larguer les amarres ou tout simplement trouver un peu de répit. Si ça ne s'expérimente pas forcément comme par une fugue dans certaines sociétés, on retrouvera cela sous d'autres formes. Ouais.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence pour vous ? C'est ce qu'on vous a aussi reproché, alors que tant de jeunes du continent africain disparaissent à jamais pour eux, en mer et en tout anonymat, parce qu'ils ont voulu aussi tenter une forme d'aventure.
Je ne pense pas qu'on puisse rapprocher les deux phénomènes, la migration avec les disparitions ou les fugues. C'est très très différent. Mais c'est vrai que les deux s'enracinent sur un même désir qui est un désir d'ailleurs, un désir d'autre chose. Pas forcément du merveilleux, du sublime, etc. Mais un désir d'autre chose. Qu'importe ce que cet ailleurs ou cette autre chose pourra être. Donc oui, ça c'est commun. Mais je pense que disparaître, c'est le résultat d'un certain tourment intérieur. Et c'est surtout parce qu'on se sent d'une certaine façon réduit au silence par son entourage ou par quelque chose en tout cas qui pèse sur nous. Et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
L'opinion, vos compatriotes ont été déçus, ils attendaient une explication rationnelle à votre fugue, ils n'ont rien eu. D'ailleurs, c'est étrange pour une société qui n'est pas toujours rationnelle, mais là-dessus, ils voulaient du rationnel.
Eh bien, si je ne parviens pas moi-même à trouver du rationnel dans mes actes, je ne vois pas comment je pourrais donner des raisons rationnelles aux autres. Il se trouve que je suis dans une phase de recherche de moi-même. Je suis dans une quête de mon moi profond. Je suis en train de vraiment trouver un sens à ma vie, de donner du sens à mes actes. Et je pense que c'est trop me demander d'exiger de moi des réponses toutes faites, des réponses rationnelles.
Alors, évidemment, vous n'êtes pas venu ici que pour parler de votre nombril. Il y a beaucoup d'autres choses qui vous intéressent dans la vie.
Effectivement.
Les femmes, on va parler des filles, de la réussite scolaire aussi, des choses que vous connaissez bien. Les femmes ont une parole publique aujourd'hui, sur la place des femmes dans la société, sur la réussite scolaire. Est-ce que la réalité change pour les filles ? Écoutez les souvenirs de l'écrivain américano-nigériane Chimamanda Ngozi Adichie.
Je voulais vraiment être la déléguée de classe et j'ai eu la meilleure note à l'exercice. Puis à ma grande surprise, l'institutrice nous a dit que le délégué devait être un garçon. Elle avait oublié de le préciser avant parce qu'elle pensait que c'était évident. Un garçon a eu la deuxième meilleure note à l'exercice et est devenu délégué. Or, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le garçon était doux et gentil et n'avait aucune envie de patrouiller avec une canne. Alors que moi, j'étais J'étais pleine d'ambition pour cette tâche. Mais j'étais de sexe féminin et lui de sexe masculin. Et donc, il est devenu délégué de classe. Et je n'ai jamais oublié cet incident.
Chimamanda Ngozi Adichie, lors d'un TEDx en 2017. Diary Saud, dans quelle mesure est-ce que ça a changé par rapport à ce qu'elle raconte? Elle n'est pas de la même génération que vous, hein, Chimamanda.
Alors, je vais faire écho à ce qu'elle a dit, avec une certaine histoire que j'ai vécue, un peu pareil. Il se trouve qu'avant, je percevais, quand j'étais enfant, la façon dont le féminisme était conçu par la société et à quel point les féministes étaient perçues comme dangereuses. Et je trouvais ça tellement étrange. Lors de mon première interview, par exemple, de ma première interview avec un journaliste et un caméraman, lors d'une pause...
Au Sénégal ?
Oui, au Sénégal. Il y a eu le caméraman, du coup, qui a posé une question, si j'étais féministe. Il y a eu l'intervieweur qui tout de suite a réagi en disant « Ah non, Diary, elle n'est pas féministe, pas elle. » Et du coup, ça a sonné en moi comme une sorte de défense à une attaque. Et j'ai perçu tellement de bienveillance dans ses propos, comme s'il cherchait à me défendre d'une menace ou d'une accusation ou d'une injure. Et j'ai senti que le mot « féminisme » était un mot dangereux. Que, en tout cas, c'était pas un mot comme les autres, que c'était un de ces mots qui vous transforme et qui transforme le regard de l'autre sur vous. Ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait peur. Ça m'a fait très peur. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que féminisme, c'est vraiment une étiquette qu'il faut revendiquer, qu'il faut savoir revendiquer. Et en ce moment, avec ce que j'ai vécu, ça m'a appris aussi qu'il fallait pas que je me conforme à ce que les gens attendaient de moi. D'une certaine façon, ça a libéré ma parole et je ne suis plus dans les discours conformistes, je ne suis plus dans les discours de convenance, dans les discours approuvés, vous savez, approuvés par la société, le politiquement correct, comme on dit. Et depuis, je sens que oui, tout ce que je fais me ramène à cette lutte féministe. Tout ce qu'on dit, d'une certaine façon, quand on creuse, me ramène à mon genre, à mon sexe. Et je me rends compte que j'ai moins de liberté juste parce que je suis une fille, une femme, juste parce qu'en étant femme, on attend de moi une certaine empathie, on attend de moi que je prenne conscience de ce que les gens veulent, de mon futur mari, de mes futurs enfants, etc.
Mais pourtant, Diary Saud, vous savez déjà depuis plusieurs années que vous incarnez la réussite scolaire des filles dans un pays qui a fait de la parité scolaire un combat, même si c'est un combat qui n'est pas tout à fait gagné. Ça, vous le saviez d'emblée, qu'à vos côtés, il n'y avait pas tant de filles que ça, non?
Oui, je le savais, mais je n'en avais pas autant conscience que maintenant. Me mettre à dos, entre guillemets, la société, ça m'a ouvert les yeux sur les problèmes qu'il y avait avant, mais dont je n'avais pas forcément conscience parce que, d'une certaine façon, j'étais caressée dans le sens du poil. Et maintenant, c'est tout à fait différent. Je me rends compte qu'il faut vraiment un cadre, il faut vraiment donner une forme tangible à cette lutte, par l'art, par les réseaux sociaux, mais pas uniquement, qu'il faut vraiment un support pour les femmes, pour que ce combat-là, ils se sentent.
Je parlais du combat de la réussite scolaire des filles au Sénégal, mais vous êtes étudiante en France, en classe prépa scientifique.
Oui.
Il y a combien de filles dans votre classe ?
Il n'y en a pas beaucoup.
Vous savez la proportion, si vous êtes bonne en maths, vous êtes bonne en maths pour calculer. Oui, quel est le pourcentage de filles dans votre classe à l'heure actuelle ?
Alors, quand j'étais au lycée scientifique, il y avait autant de filles que de garçons à peu près.
Au Sénégal.
Oui, au Sénégal.
Le lycée d'excellence où vous étiez.
Oui. Et en ce moment, à peu près, mais il y a quand même un peu moins de filles. Oui.
aujourd'hui à Paris.
Oui, il me semble, oui.
Les chiffres aujourd'hui pour les écoles d'ingénieurs, les filles sont largement minoritaires. Un quart des inscrits sont des filles. Et c'est une proportion qui n'a pas bougé en 10 ans en France.
Je trouve ça vraiment dommage, puisque globalement, moi, il m'a toujours semblé que les filles, en tout cas au Sénégal, avaient plus conscience de ce qu'on attendait d'elles. Et comme elles cherchaient un tout petit peu à échapper à une condition établie d'avance, puisque elles étaient destinées à un destin, soit t'étais femme au foyer, soit t'allais être mariée avant l'âge. Donc, en cherchant à échapper un tout petit peu à ce destin, tu te dépasses, tu te donnes plus peut-être que les garçons qui eux, n'ont pas forcément une épée de Damoclès suspendue au-dessus d'eux. Et j'ai toujours senti ça dans les classes où j'étais, que les filles, elles se donnaient davantage, elles étaient plus... en tout cas, la motivation me semblait supérieure à celle des garçons.
En tout cas, si vous aviez grandi en France, vous feriez partie d'une minorité, celle qui aspire à intégrer une école d'ingénieurs.
Certainement. Mais c'est drôle de constater que malgré ce que je viens de dire, malgré cette motivation, les chiffres ne sont pas tellement différents de ce qu'on a en France. Au Sénégal, pareil, dans les filières scientifiques, on voit un peu moins de filles. Surtout parce que on a intériorisé dans notre esprit que c'est pas faisable, que c'est plus difficile, qu'il y a plus de contraintes, qu'il vaut mieux se limiter à ce qui est accessible. Donc voilà, il y a ces discours-là qu'on entend depuis qu'on est tout petit et finalement on finit par y croire.
Diarisso, vous restez avec nous. On va se retrouver pour parler des femmes, bien sûr, du féminisme aussi, puisque c'est vous qui avez prononcé le gros mot. Mmh. Les femmes sur votre continent aussi, votre vision de l'avenir pour la jeunesse. Ça sera juste après la rappeuse sénégalaise Mounaya. Et bien sûr, je redonne le numéro de notre compte WhatsApp. On peut vous donner la parole au 33 7 64 45 51 41.
L'idéal de tomber d'être au plus bas, mais tu t'engalèches. Tu t'engalèches. Suffit d'une étincelle pour tout péter, mais tu t'engalèches. T'as même pas de quoi crier, mais toi tu t'en galèches. Les richesses de ton pays sont pillées, mais toi tu t'en galèches. Siro de Nyama, appelle-moi tantine. Pour Kenema, je ne fais pas de tantine. T'es centré sur la taille du plantain, je reste concentré, moi je vise le platine. Enfant de Mouderi, ça rarolait mélangé, c'est de là que je puise mon énergie. Je ne dague pas Paris, je reste ici pour prouver qu'y réussir n'est pas une utopie. Même si ça t'en fait la régie. L'union, c'est la stratégie. Abandonnons ce maudit CFA qui tue nos économies, économies. Tu vis dans une sécurité illusoire, mais toi t'es dans les conneries, conneries. L'IDH me complète d'être au plus bas, mais tu t'en galèches. Suffit d'une étincelle pour tout péter, mais tu t'en galèches. T'as même pas de quoi grailler, mais toi tu t'en galèches. Les richesses de ton pays sont pillées, mais toi tu t'en galèches. Matin, midi, soir, tu t'en galèches. Délestage, tu grès dans le noir, mais tu t'en galèches. Si t'as du temps fumé, bois, tu t'en galèches. Ta maison prend feu, tu cries au secours, mais tout le monde s'en galèche. Elle a sa tête. Tout le monde s'en galèche, elle a sa tête. Courant coupé, budget détourné, quartier inondé. Le peuple envoûté par des faux prophètes se fait entuber. On assassine l'adversité, ça tapine dans les universités. Le peuple n'a pas droit de citer. L'ethnicisme tue la diversité. La taille du QI remplace le QI. Africain maudit, avec tes quintos là tu te crois métisse. Mais qui t'a menti?
Les petits frères ne veulent plus être lucides. Ça chante en joie l'hymne à la
codéine. Parfois je me demande à quoi ça sert de tirer la larme. On dit que la puissance est au bout du canon, mais l'Afrique ne fabrique pas d'armes.
Non,
Mounaya, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Tu t'engueulèches. Diarisso est notre invité chez 7 milliards. Vous publiez Je pars. Vous êtes auteur, étudiante également. Vous avez été, du fait de votre fugue il y a près d'un an, ultra médiatisé. J'ai lu pas mal de messages, pas très agréables hein, d'ailleurs, sur la façon dont a été vécue votre disparition, puis votre réapparition sans explication. Vous êtes toujours étudiante en classe préparatoire pour préparer les concours des grandes écoles d'ingénieurs aujourd'hui en France, et on ne peut pas vous retirez votre titre de meilleure étudiante au Sénégal. Un auditeur souhaiterait s'exprimer. Moussa est sénégalais, à Boaké en Côte d'Ivoire. Bonjour Moussa.
Bonjour madame.
On vous écoute Moussa.
Je voudrais juste dire bonjour à Diarisso.
Bonjour.
Bonjour Diari, ça va?
Ouais, ça va très bien, merci. Et vous?
Je voudrais juste, ouais, très bien. Je voudrais juste te féliciter et t'encourager aussi.
Merci, c'est très très gentil.
Pourquoi ça, Moussa?
Moi, je trouve que Diarisso, c'est un exemple quoi, pour toute une jeunesse sénégalaise et africaine. Mm-hmm. Parce que tout ce qu'elle a eu, elle s'est battue pour l'obtenir, non? Donc, c'est une fierté pour nous.
Vous avez conscience que vous n'êtes pas forcément représentatif par rapport au message que j'ai lu tout à l'heure, Moussa, par rapport à vos compatriotes?
Chaque personne est libre pour, mm-hmm. pour sa opinion personnelle. Non mm-hmm.
Donc vous, ce que vous...
Mais moi, je trouve que...
Oui.
Je trouve que Diarisso, c'est un exemple. Et je suis fier d'elle. Je le souhaite vraiment très bon courage et bonne continuation.
Merci.
Vous avez voilà. dit au standard, Moussa, que pour vous, Diary est un exemple pour vos enfants. Ils ont quel âge, vos enfants?
Oui, mais pour mes petites sœurs et tout cela, c'est vrai que je n'ai pas encore enfant, mais j'ai une petite sœur qui a 12 ans uh-huh. et qui est en collège. J'aimerais bien qu'elle soit comme Diary Sow.
Merci à vous, en tout cas, Moussa, de nous avoir appelés. Alors, il y a aussi des questions, une question de Pape qui a 29 ans, qui est à Dakar. Diary, dans ton livre, tu parles de rendre sa liberté à l'héroïne. Est-ce qu'il est possible de prendre sa liberté, de tout oublier jusqu'à laisser sa famille dans l'inquiétude, le désarroi, de ne point savoir si leur fille est en vie ou pas? Cette coura dans le livre, est-ce que c'est bien de toi dont tu parles, j'imagine? Sachez que les Sénégalais vous aiment.
Déjà, je vais prendre la dernière remarque qui me touche profondément. Mais il se trouve que Cora n'est pas moi et j'ai tout fait pour qu'il y ait quand même des détails qui nous dissocient. C'est vrai qu'il y a des similitudes et c'était le but. Le but, c'était d'utiliser mon expérience, de prendre toute cette matière, ce qui a été dit et supposé pour en faire un roman. Il y a une certaine vision des choses qui voudrait que Cora ait été égoïste, mais cela voudrait dire que disparaître, c'est une façon d'abandonner des gens, une vie. Mais qui a été abandonné? Cora? Eux? Je ne sais pas. Je laisse au lecteur le soin de décider.
Oui, alors évidemment, l'histoire de Cora est en effet, avec le dénouement à la fin du roman, ça n'est pas votre histoire. Une question de Lamine à Dakar. Dans son livre, Diary parle de la virginité. En fait, vous en parlez dans votre premier livre aussi, hein, Sous le visage d'un ange. J'ai une question pour elle. Quelle est la valeur de la virginité chez une fille peule? Et puis aussi une autre question pour vous, Diary, de Mohamed, qui est malien à Nouakchott. C'est quoi la liberté des jeunes filles, d'une jeune fille, comme Diarisso? Et ce sont vraiment des questions d'hommes.
Hein. Ouais. Alors.
Est-ce qu'on vous la poserait si vous étiez un garçon?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est très, très frustrant qu'on me pose ce genre de questions et de devoir y répondre. Mais je pense que le jour où. Où nous ne nous autoriserons plus à juger la femme sur ses écrits, sur son habillement, sur sa façon de se comporter, sur ses paroles. Le jour où notre société ne sera plus régie par le masla, le mounial, le sotora, la femme, elle sera complètement libre. Mmh. Et ce genre de questions, on ne les aura plus.
Ouais. C'est pour quand ? Parce que dimanche dernier, la marche blanche des femmes à Dakar, un mouvement qui prend de l'ampleur contre les violences faites aux femmes, elle a bien eu lieu, cette marche ?
Oui, il y a des marches, on organise des choses. Au Sénégal, en tout cas, il y a plusieurs formes d'associations, des organisations qui permettent aux femmes de s'unir, de se soutenir, de se battre contre le patriarcat. Mais il me semble que c'est fait de telle façon qu'on ne se... Comment dire ? On ne se réclame pas forcément du féminisme, et c'est ça qui nous tire vers le bas. Il faut vraiment qu'à un moment donné, ces petites associations, ces petites organisations commencent à se définir comme féministes et qu'il y ait des choses qui se fassent. Je pense que le processus de modernisation, de mondialisation et de développement, il va aussi avec un certain désir d'évoluer, un certain désir d'aller vers un certain idéal. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'accrocher à la tradition, aux cultures, mais à un moment donné, il faut vraiment faire la part des choses et essayer un tout petit peu de s'y accrocher moins, quoi. Loin de moi l'idée de dire que la culture ou les traditions ne sont pas importantes, c'est essentiel. Mais je pense que le féminisme, ou en tout cas la question des droits des femmes, dépasse de loin cette question de culture ou de tradition. Ouais. Ça concerne l'humain.
L'enracinement, la culture, c'est aussi un piège pour les femmes, certains le disent. Aujourd'hui, quand même, bien que vous sembliez dire que ça ne va pas si vite, de nombreux activistes pour le climat sont des femmes. Et l'Afrique a de nombreuses Greta Thunberg. Écoutez le coup de gueule de la jeune activiste ougandaise que vous connaissez sûrement Vanessa Nakate, lors de la dernière COP26 pour le climat, et ensuite la militante togolaise Kaoussara Sani.
There have been 25 COPs before this one.
Il y a eu 25 conférences des Nations Unies sur les changements climatiques avant celle-ci. Chaque année, les dirigeants quittent la table des négociations avec de nouveaux engagements et de nouvelles promesses. Pourtant, chaque année, les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Les 9 millions de personnes qui meurent chaque année en respirant un air toxique dû à la pollution des combustibles fossiles n'ont pas des décennies à attendre que nous arrêtions progressivement d'utiliser le pétrole, le gaz ou le charbon. Vous comprendrez que nous pouvons être sceptiques lorsque la plus grande délégation venue ici au sommet de la COP26 appartient à l'industrie des combustibles fossiles. J'espère que vous comprendrez que là d'où je viens, une augmentation de la température de 2 degrés signifie qu'un milliard de personnes seront exposées à des chaleurs extrêmes.
Nous voyons les business leaders et investisseurs flying into COP on private jets.
Nous avons vu des chefs d'entreprise et des investisseurs se rendre à la COP à bord de jets privés. Nous les écoutons faire des discours fantaisistes. Ils nous parlent de nouveaux engagements et de promesses, mais les engagements ne réduiront pas les émissions de CO2. L'humanité ne sera pas sauvée par des promesses. Je suis ici pour demander aux chefs d'entreprise et financiers, montrez-nous votre fidélité, montrez-nous votre fiabilité, montrez-nous votre honnêteté. Je suis ici pour dire, prouvez-nous que nous avons tort.
Bonjour, je suis Kaoussara Sani, militante et sociologue. Je milite pour le mouvement Justice globale pour le climat et le mouvement Action Sahel, Agir sur le Sahel. Actuellement, je travaille avec un groupe d'activistes volontaires de l'Afrique pour mettre une pression sur nos dirigeants d'essayer de rediriger le budget militaire pour trouver des solutions contre le changement climatique au Sahel. Et surtout, nous avons mis en place un projet dénommé Seed for Sahel il y a de cela 2 mois. Avec le projet Semences pour le Sahel, nous avons pu aider jusqu'alors 27 agriculteurs en Afrique de l'Ouest au Sahel, chez moi au Togo. Et au Kenya, nous plantons des arbres avec un activiste qui s'appelle Monari Julius.
Diarisso, vous vous préparez à devenir ingénieur. Dans quelques mois, probablement, vous intégrerez une grande école d'ingénieurs. Est-ce que votre génération pourra peser sur les décisions des grandes entreprises dans le monde économique, vu l'état de la planète aujourd'hui?
Je pense que oui. Nous avons notre mot à dire là-dessus. Et aujourd'hui, nous nous en servons via les réseaux sociaux, notamment. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le poids de cette prise de parole qui maintenant prend de l'importance. C'est une tribune que tout le monde essaie d'utiliser à son niveau de la meilleure façon possible pour en tout cas essayer de placer un mot sur ce débat qui nous concerne tous. C'est un débat commun, donc forcément, on a tous notre opinion là-dessus. Mmh.
Mais vous, en tant que futur ingénieur, à quoi vous aspirez professionnellement ?
Alors, il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent. Là, pour le moment, mon objectif, c'est de choper une bonne école. Ce sera déjà ça de fait. Alors, je m'intéresse à l'intelligence artificielle ou à tout ce qui touche, en tout cas, à l'ingénierie.
Pour travailler où ?
C'est trop me demander que de me poser des questions aussi précises. Je ne suis pas très douée pour choisir.
Pour rester une citoyenne du monde ou autre chose ?
Oui, rester une citoyenne du monde, c'est essentiel, il me semble. Et dans mes choix de carrière, en tout cas, j'essaierai de mettre ça... En tout cas, ça pèsera sur la balance dans mes choix de carrière. Choisir un métier qui me permettra d'allier mes passions, de pouvoir œuvrer aussi à la limite de mes moyens et même au-delà, à l'avancée du monde.
Mais vous avez envie de continuer à écrire ?
Bien sûr, oui.
Que peut apporter, vous avez entendu, des femmes qui agissent, hein, qui prennent la parole à des tribunes internationales, que peut apporter l'écriture comparée à l'immédiateté de l'action, finalement ?
L'écriture, c'est, je pense que c'est par ce moyen que l'on véhicule les idées. Et donc, c'est essentiel de commencer par là. Et je pense que si on écrit, quand on commence à s'intéresser en tout cas à la littérature, il faut trouver des causes. Et le climat, c'est une grosse cause, quoi. Il faut vraiment qu'on dise des choses là-dessus. Et il me semble que oui, se servir de l'écriture pour servir les grandes causes, c'est très, très noble. Ce serait même l'idéal d'un écrivain. On écrit pour des tas de raisons, mais celle-ci me semble primordiale. Et je pense que oui, là, je n'ai pas fait des tonnes de recherches là-dessus, je n'ai pas fait des études là-dessus, je ne suis pas non plus spécialiste. Donc tout ce que je dirais sur le sujet émane de mon opinion, de mon expérience personnelle. Et je ne pense pas avoir les compétences en ce moment ou la légitimité, ou en tout cas le pouvoir de changer quoi que ce soit.
En tout cas, vous publiez « Je pars » aux éditions Robert Laffont, Diarisso.
Ouais.
On vous souhaite très bonne chance pour les concours aux grandes écoles. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ?
Oui.
Je l'ai annoncé au tout début de l'émission, dans quelques instants. Je vous propose de découvrir un de nos portraits de l'Afrique qui gagne. Ce sera juste après la jeune Nigériane, Rema. London, London, London. Another banger.
Sexy love, what she need for my bad boy like me? Yeah, yeah. Sexy kiss is the thing that she ain't for my lips. Yeah, yeah. My sex herself is the only air that she breathes. And when I look into her eyes, I know that she can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, skin to skin. And as the rush they increase, I feel the drip in your V. Shorty say she feeling so. She grab my neck and she whisper, please. Shorty, give me that splash from my chest to my knees. Do, 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 do.
I give her number one, she need a bucket quick. And when we done, she feel me like a majesty. Grip, 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 grip. Round two, quick, quick, quick. Round three, pelebe. Next day, we go do one for your place.
7 milliards de voisins sur RFI. Mariette Moncho maintenant, son portrait, 32 ans, elle vient du département des Collines, au centre du Bénin. Militante pour les droits des femmes, elle est aujourd'hui responsable du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin. Et Mariette partage son parcours et son engagement au micro de Raphaël Constant, qui l'a rencontré à Paris.
J'ai des parents avant-gardistes, futuristes, qui ont su nous donner une éducation assez juste. Nous sommes 7 filles et 3 garçons. Mon père a donné les mêmes chances de réussite à ses garçons et à ses filles. Et je dirais que nous avons vraiment eu des parents qui ont compris très tôt que naître fille n'est pas un échec, mais au contraire une chance pour la famille, mais également pour le pays. Et ont su vraiment investir en nous.
Et c'est comme ça que vous êtes devenue militante ?
Oui, parce que moi j'ai toujours ressenti ce besoin de travailler assez fort pour rendre fier mon père. Et si je retiens quelque chose de mon père, c'est qu'il dit souvent que si on n'arrive pas à bien nous insérer dans la société, finalement, on sera à la solde des hommes. Et donc, il fallait travailler vraiment dur pour nous défendre et pour défendre nos droits, tout simplement. Mon père, il est vitrier et ma mère, elle est commerçante à la maison. Et quand on vit avec des parents comme ça, surtout avec une mère qui s'est toujours débattue pour subvenir à nos besoins, on se dit qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre également et de nous en sortir. Et surtout quand vous vivez l'injustice autour de vous, quand vous voyez des jeunes filles brimées parce qu'elles sont des filles, très tôt vous êtes révoltées. Déjà au collège, quand vous entendez le discours vraiment très orienté de certains professeurs sur ce que être fille ou être garçon, vous vous dites que vous devrez vous battre tout simplement pour changer cette façon-là de penser des hommes.
Mariette, qu'est-ce qui vous met en colère contre ces discriminations ?
Alors déjà, c'est cette complaisance face aux violences que les filles et les femmes subissent. Une jeune fille tombe enceinte, ben c'est pas grave, elle va accoucher. On viole une jeune fille, ok, elle a porté quoi ou quelle éducation elle a reçue. Une jeune fille demande un accès à une méthode contraception, mais tu es trop jeune pour demander une méthode, va t'occuper de tes études. Je pense que c'est assez criminel même cette façon-là de penser, cette façon-là de banaliser la souffrance des jeunes filles et des jeunes femmes qui en réalité n'est que, je dirais, le résultat d'une hypocrisie sociale qui voudrait que voilà, la jeune fille se confine dans des rôle, je dirais, assez domestique, alors qu'en réalité, les choses ont changé. Les jeunes filles aujourd'hui ont besoin d'aller à l'école, ont besoin d'être instruites, ont besoin d'avoir un bon boulot, un bon salaire, que personne n'oblige les jeunes filles aujourd'hui. Ah, tu es trop vieille, va te marier. Ah, tu attends quoi pour faire un bébé? Et en même temps, quand ça vient en griffe un peu plus tôt, on stigmatise la jeune fille parce qu'on estime que c'est un échec social. Révolter simplement parce qu'aujourd'hui, les temps, je vois tellement des jeunes filles capables de faire des choses extraordinaires, mais qui ont peur de prendre leur envol parce qu'on leur a fait toujours croire que ce n'est pas leur place, elles ne peuvent pas. Et je crois que c'est le moment pour ces jeunes filles aujourd'hui de croire en elles et de défendre tout simplement leur opinion.
Alors dans l'actualité du Bénin, depuis le mois d'octobre 2021, l'Assemblée nationale a voté une réforme en faveur de la législation de l'avortement. Et jusque-là, l'IVG était en fait interdite, sauf circonstances exceptionnelles, je cite. Mariette, vous, comment vous accueillez cette réforme ?
Quand tu te réveilles un bon matin, on t'apprend que celle avec qui tu joues tout le temps ou celle avec qui tu es à l'école est décédée. Tu apprends que c'est de l'avortement, c'est des choses qui choquent.
Et donc sous-entendu d'un avortement clandestin.
Cette loi vient modifier, je dirais, la loi 2003 en offrant plus de possibilités aujourd'hui aux femmes pour avoir accès. Si la femme, elle est en détresse matérielle et professionnelle ou même morale, elle peut avoir recours au service d'avortement sécurisé.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ces conditions en fait ?
Aujourd'hui, la suite logique qu'on attend vraiment de cette loi, c'est les décrets d'application qui viendront justement préciser quand est-ce qu'on parlera de détresse émotionnelle, quand est-ce qu'on parlera de détresse professionnelle, matérielle, etc. Nous savons très bien que voilà, il y a des jeunes qui abandonnent les cours parce qu'elles tombent enceintes, par exemple, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens pour poursuivre, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, parce que le père a fui ses responsabilités, parce que les parents renvoient de la maison, etc. Il y a des jeunes qui vont mettre fin à leur vie parce qu'ils ne veulent pas garder la grossesse. Elles ont été victimes de viol, mais elles ne savent même pas comment est-ce qu'elles peuvent prouver qu'elles sont victimes de viol. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faille analyser aujourd'hui quand nous parlons de détresse. Et nous espérons vraiment que ces nouvelles dispositions viendront vraiment aider les jeunes filles et femmes à l'avenir à avoir des services vraiment très sécurisés afin qu'on ne perde pas deux vies, mais au moins qu'on puisse sauver une.
Jusque-là, comment l'avortement était perçu dans la société au Bénin ?
Était et toujours perçu. Parce que je dirais que l'avortement, c'est ôter la vie. C'est tout ce qu'il y a de plus stigmatisant dans la société. Parce que voilà, on croit aux valeurs religieuses, on croit aux valeurs sociétales. Et c'est comme ça que l'avortement est considéré comme un crime, tout simplement. Que nous défendons le droit à l'avortement ou que nous soyons contre l'avortement, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se poser vraiment les bonnes questions pour donner plus de chances, plus de possibilités à des filles d'évoluer dans un environnement qui les protège. À un moment donné, on doit se départir de nos considérations religieuses, culturelles, etc. Parce que chacun a le droit de disposer de son corps et je dirais plus encore de disposer de sa vie.
Est-ce que pour vous, c'est aussi une question de développement ?
Absolument. Aujourd'hui, nous parlons du dividende démographique qui est gage de développement. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui pour prendre en charge la scolarité de nos enfants, pour construire des écoles pour nos enfants, pour donner un meilleur accès aux soins de santé pour nos enfants, pour donner un meilleur accès à l'emploi pour nos enfants? Je crois que ce n'est pas le cas. Et pour le faire, la meilleure façon de se capturer le dividende démographique, et pour le faire, il faut forcément agir sur la démographie. Je ne rige pas contre la natalité, au contraire, mais faisons des enfants dont nous pouvons nous occuper.
Et si je vous pose la question, pour vous, l'Afrique qui gagne, c'est quoi ?
Je veux avoir beaucoup de femmes au niveau des instances de prise de décision. Je veux avoir plus de lois qui protègent et qui respectent les droits des femmes. Je veux avoir moins de grossesses précoces, moins de violences. Je veux avoir des femmes entrepreneurs qui gagnent des marchés publics et qui dynamisent finalement le monde. C'est ça finalement l'Afrique qui gagne, c'est des femmes épanouies, des femmes qui ne se résument pas à leur sexe. Je veux avoir des femmes qui osent tout simplement et qui dirigent le monde. Voilà, j'en rêve.
Mariette Moncho, militante pour les droits des femmes béninoises, au micro de Raphaël Constant, Diarisso. Et pour vous, c'est quoi l'Afrique qui gagne ? Je vous ai vu hocher la tête quand Mariette Moncho disait « Faisons des enfants dont nous pouvons nous occuper ».
Tout à fait, tout à fait. Elle a cité un bon nombre de choses, d'objectifs, de désirs. Et je veux. Et à toute cette liste, je ne vois qu'une seule réponse, c'est le féminisme. C'est vrai que c'est un terme melting pot en ce moment, où on fourre un peu tout et n'importe quoi. Mais je définirais vraiment féministe toute personne qui serait pour l'avancée des femmes, qui les mettrait en avant au lieu de les brimer et défendrait leurs intérêts. Et il faut vraiment dissocier l'égalité de la complémentarité. Quand nous nous prévalons de cette complémentarité, nous avons tendance à oublier les vrais problèmes. Alors il faut vouloir l'égalité, il faut vouloir transformer les sociétés africaines, il faut vouloir plus de justice sociale, moins de soumission à la tradition. Et je pense qu'on aurait tort d'inclure la lutte des féministes des femmes africaines dans les mouvements occidentaux. D'une part parce que le niveau de revendication n'est pas le même encore. On en est à réclamer le droit des jeunes filles à l'éducation, pour que le mariage ne soit pas le seul idéal féminin, pour que les femmes enceintes aient accès à la santé, pour que l'avortement soit médicalisé et que les femmes disposent un minimum de leur corps pour promouvoir leur niveau de vie. Et d'autre part, les conditions, le contexte, les besoins, le contexte économique, historique, culturel, religieux, politique, ni social, n'est pas le même. Et dans ce cadre, et c'est une question de priorité.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Diarisso, elle avait bien préparé sa conclusion et ses revendications aussi au nom de la jeunesse et des femmes du continent. Merci à vous, Diarisso. Demain, on parlera des arnaques sur Internet qui visent d'ailleurs les jeunes. À demain.
Tout à l'heure sur RFI.